Il me semble que dès la dernière table ronde, on a déjà commencé à aborder la question de la langue et de l'apprentissage du français et de la multiplicité des langues dans les bibliothèques publiques. Nous allons poursuivre sur ce thème, mais plus particulièrement en centrant sur la place des bibliothèques dans l'apprentissage, dans l'accompagnement de l'apprentissage du français, les formes de partenariat qu'il est possible de développer ou qui sont mis en place avec des associations ou des services d'apprentissage du français. Dans certaines villes, des cours sont systématiquement organisés pour tous les gens qui demandent d'apprendre le français. Et puis, de nombreuses associations de formateurs interviennent en partenariat avec les bibliothèques dans les bibliothèques pour accompagner des groupes. En partie, les gens qui ont été interviewés là sont effectivement des personnes qui ont pu suivre ou travailler avec des formateurs, et pour un certain nombre de cours, ils pouvaient se dérouler dans la bibliothèque. Et puis, peut-être plus largement, comment inscrire cette question de l'apprentissage du français dans les bibliothèques. Parfois, nombreux bibliothécaires sont étonnés, un peu réticents, considérant qu'ils n'ont pas la formation. Il s'agit plutôt souvent de partenariats, mais des choses comme les groupes de conversation, finalement, sont souvent faits par des collègues qui n'ont pas de formation d'apprentissage du français, de FLE pour étrangers. Voilà. Donc, et alors, peut-être de voir un peu comment cette question-là est inscrite dans les projets d'établissement, parce que je crois que c'est une des questions importantes. Si on ne veut pas que ce soit simplement du volontariat et que ce soit quelque chose qui perdure dans les bibliothèques, ce qui n'est pas toujours le cas, et parfois ça s'appuie essentiellement sur les bonnes volontés. Voilà. Et puis peut-être comment on a identifié les besoins. Ils ne sont pas tous les mêmes selon les environnements et les collectivités. On voit bien là, par exemple, qu'il y a essentiellement des migrants plus récents, mais la question des immigrés qui sont arrivés depuis plus longtemps et qui, pour un certain nombre, en particulier chez les femmes, ne parlent pas bien le français, est aussi un des services qu'on peut développer toujours avec les groupes d'alphabétisation, que ces questions rejoignent, mais pas toujours, les questions d'illettrisme, mais pas toujours, puisque on voit bien que les profils des migrants sont fort différents, et je pense que Hervé Adami reviendra là-dessus, sur les questions des parcours linguistiques. Je vais m'arrêter, car je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je crois que je vais commencer par un monsieur, Hervé Adami, qui est donc linguiste et qui, je crois, avait envie, en tout cas, de débattre des questions qui ont été déjà abordées ce matin à propos de deux points qui sont importants, je crois, dans ses réflexions. Je sais que Hervé a aussi été formateur pour l'apprentissage du français. Donc, deux questions qui sont pour lui vraiment importantes, il va revenir dessus, je pense. C'est la question de la culture d'origine, terme qu'il vous dira ce qu'il en pense, et les questions du bilinguisme ou du multilinguisme. Bien entendu, rejoignant des questions de multiculturel et celle-là. Et je crois que ce que vous allez aborder, c'est plus particulièrement la question de la biographie sociale, biographie linguistique des apprenants, en vous fondant à la fois sur les travaux de Lucien Sèvres. Peut-être tout le monde a oublié qui était Lucien Sèvres, mais en tout cas j'y ai mis Bronnet, penseur marxiste, et puis bien entendu quelqu'un comme Sayad. Donc je vous donne la parole, Hervé. Je vous passe un micro, du coup. Je présenterai chacun des intervenants à leur tour, si vous me permettez.
Oui, bonjour. Donc effectivement, j'ai eu très envie d'intervenir ce matin, et puis parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu ébouriffé, et vous voyez, vu les cheveux qui me restent, il en faut pour m'ébouriffer, mais bon, c'était, je vais y revenir quand même, parce que c'est dommage qu'elle soit pas là, Madame Boer, pour échanger un petit peu. Mais je vais pas m'étaler sur ce qu'elle a dit, je voulais simplement revenir sur quelques questions de fond concernant le bilinguisme et une série de choses, notamment la dernière question qui avait été posée sur l'idéologie monolingue. Donc, sur cette question des cultures d'origine, bilinguisme, ça renvoie à une problématique générale qui est le plurilinguisme. Et le plurilinguisme pour ce qui concerne les migrants. Donc là où il y a des choses qui me gênent, qui me gênaient, c'est cette propension, donc je vais tempérer un petit peu quelques ardeurs, mais cette propension à dire le plurilinguisme c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop génial, allons-y franchement, allons-y gaiement. Et sans trop se poser de questions, alors là c'est un petit peu comme universitaire que je parle, mais il y a des questions qui se posent. Bien sûr, oui, tout le monde est d'accord, on est tous d'accord pour dire que c'est bien qu'on parle 2, 3, 10, 15 langues. Le dernier PowerPoint, le petit truc, la petite citation qui est restée, moi je suis complètement d'accord avec ça. Mais il faut quand même, quand on regarde, Dominique disait linguiste, c'est plus particulièrement sociolinguiste, c'est-à-dire les relations entre langue et société, et c'est là où il faut être un petit peu prudent. Donc quand il faut être un petit peu prudent, là où je voyais passer ce matin beaucoup de choses, on en a discuté beaucoup entre midi, c'était notamment sur la question, entre autres, hein, et vous verrez que je vais citer aussi un petit peu de personnel là-dedans, parce que je n'avais pas présenté, mais je suis professeur à l'Université de Lorraine, donc la Lorraine, c'est une terre d'immigration, vous voyez comment je m'appelle, et vous voyez aussi que voilà, c'est un creuset, et ça, c'est notre, ça fait partie de notre histoire. Je regrette aussi que Gaston Yvan soit pas là, parce qu'il travaille par exemple sur des problématiques football et immigration qui sont vraiment au cœur de cette affaire-là, et là, c'est à la fois un sujet d'étude, mais ça fait partie aussi de ma vie d'enfant. Donc, mais je reviendrai sur ces questions-là, vous allez voir sur le football, sur un petit projet qu'on a et qui pourrait être intéressant. Donc sur le bilinguisme, là où je voulais tempérer un petit peu, c'est notamment quand je voyais apparaître des langues, celle de l'arabe par exemple, là où ça a été tempéré, c'est par vous, je ne me souviens plus de votre nom quand vous êtes intervenu, c'était sur la question de l'arabe dialectal. On sait bien, par des études sociolinguistiques, que c'est pas que personne ne parle l'arabe littéraire. Il y a des gens qui, notamment dans les dernières années, ont été scolarisés et qui ont appris à parler l'arabe, sinon littéraire, au moins l'arabe classique, dans les pays d'origine. Mais c'est quand même une minorité. La preuve, c'est que dans les pays dits d'origine, Algérie notamment, Tunisie et Maroc, le problème de l'arabe dialectal se pose. Et il se pose avec tellement d'acuité qu'une ministre, l'été dernier, a même introduit, j'allais pas dire réintroduit, parce que ça n'a jamais été fait, l'arabe dialectal à l'école. Parce qu'il y a un tel décalage entre l'arabe parlé dans les familles et l'arabe classique qu'on a des taux d'analphabétisme dans les trois pays du Maghreb qui sont assez importants. Un peu moins importants en Tunisie, mais dans les deux autres, ils sont très importants. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Donc le fait d'introduire ces langues, de parler des langues d'origine sans parler de c'est pas des nuances, hein, c'est pas des nuances. Ce qui veut dire concrètement que je reviendrai sur la question de la bibliothèque, de l'introduction pratique sur ces questions-là. Mais quand on parle de langue d'origine, il faut être très prudent, parce que ça peut faire l'effet inverse. Bien sûr que parler des langues d'origine, évoquer les langues d'origine, valoriser les langues d'origine, oui, bien sûr, c'est aussi valorisant pour l'individu. Mais ça peut faire l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que des enfants qui seraient confrontés à des formes de langue dont on dit « c'est ta langue », bon, ok, c'est ma langue, c'est l'arabe, sauf que c'est pas du tout ma langue, c'est pas du tout la langue que je parle en famille. C'est une langue savante, c'est une langue que je ne maîtrise pas, donc je suis doublement dominé linguistiquement, dominé parce que j'apprends le français et que ma famille parle péniblement le français, et que quand on me parle de ma langue d'origine, eh ben c'est encore pire. Parce que là, il n'y a même pas accès à un système graphique qui est encore différent. Donc ça peut faire l'effet exactement inverse. Donc c'est simplement, je ne dis pas que c'est rédhibitoire et qu'il ne faut rien faire, il faut être prudent et avancer avec beaucoup de prudence sur ces questions-là. Ensuite, sur la question générale du plurilinguisme, on nous dit, voilà, il y a tout un tas d'études qui nous diraient que c'est super bien, que voilà, prudence là aussi. Et il y a des études qui disent que c'est bien, il n'y a pas d'études non plus qui disent que ce serait un désastre, le monolinguisme, parce que le bâton est tordu dans l'autre sens. C'est effectivement, pendant des années, on a raconté n'importe quoi en disant les enfants plurilingues ont le cerveau à l'envers, les enfants plurilingues n'apprendraient pas bien la langue dominante. C'est faux, tout ça c'est vrai que c'est faux. Mais inversement, on est dans l'autre excès. Et là, j'ai écrit récemment, on a coordonné un bouquin avec un article où j'ai retrouvé des gens qui parlaient d'handicap pour les monolingues. C'est tellement bien le plurilinguisme que maintenant, le monolinguisme, c'est un handicap, que c'est l'illettrisme du 21e siècle. Il ne faut pas exagérer non plus. Ça voudrait dire que là, c'est grave, parce que vu le nombre de monolingues dans le monde, on nous dit qu'il y a beaucoup de plurilingues, oui, mais il y a aussi beaucoup de monolingues. Et parmi les premiers monolingues, c'est les États-Unis, où les intellectuels américains sont complètement effarés du nombre de gens qui ne parlent pas. Il faut savoir aussi qu'en Grande-Bretagne, l'apprentissage d'une langue étrangère n'est plus obligatoire à partir de 14 ans. C'est Tony Blair qui a décrété ça. Ce qui veut dire qu'ils ont le sentiment d'une telle supériorité, ce qui est vrai, tout le monde parle anglais. À Paris, allez hop, c'est parti, on ne se pose pas la question, on parle anglais, aux touristes, je veux dire. Donc ils ont le tel sentiment de supériorité qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Donc il y a de très larges zones, vastes zones monolingues dans le monde, y compris en Chine, par exemple. Et donc, il faut un peu tempérer cette question-là aussi. Donc, les gens qui sont plurilingues ne sont pas des handicapés mentaux. Les gens qui sont monolingues ne le sont pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que ça favorise l'apprentissage? Est-ce que ça favorise le développement cognitif? C'est pas si clair que ça. Parce que ça voudrait dire que, et là, les chiffres ne le montrent pas, ça voudrait dire que des enfants bi, tri ou quadrilingues seraient forcément, s'il y a un développement cognitif, ils seraient meilleurs dans d'autres disciplines ou ailleurs, ce qui n'est pas vérifié. Donc voilà, c'était juste pour tempérer un petit peu. Maintenant, sur la question des langues d'origine et des cultures d'origine. Là encore, on en a beaucoup discuté entre midi, mais ça c'est quelque chose que j'écris depuis longtemps. Là aussi, il faut être un petit peu... Parce que si on parle de langue ou de culture d'origine, langue, je viens de l'évoquer, culture d'origine, là aussi, il faut être très prudent. Parce que ces migrants, ça renvoie aussi au parcours sociolangagier. Il faut voir d'où viennent les gens, mais pas d'où viennent les gens, de quel pays ils viennent, et à plus forte raison, de quelle civilisation ils viennent. Parce qu'on est tous, eux et nous, tous singuliers, et en même temps, on se ressemble quand même. C'est-à-dire que dans ces parcours... si on dit voilà les cultures d'origine, bah, dites-moi quelle culture d'origine. Prenons ceux qui sont particulièrement nombreux en France et qui viennent du Maghreb. J'ai entendu ce mot. Mais Maghreb, c'est quoi? C'est au moins trois pays déjà. Donc Algérie, Tunisie, Maroc, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes langues, les dialectes sont différents. C'est pas la même histoire courte et histoire longue. Donc il y a des différences. Donc on peut déjà pas faire cet amalgame là. Il y a des Berbères, il y a des Arabes ou des arabophones, il y a aussi des conditions économiques qui sont différentes, donc on ne peut pas faire des grandes valises comme ça en mettant culture d'origine, il faut voir ce qu'on y met. Ensuite, là où il faut faire très attention, c'est que, et ça a été évoqué aujourd'hui, je l'ai entendu aussi ce matin, c'est que dans ces parcours, il y a aussi des origines qui sont entre le paysan d'Italie ou de Pologne et de l'Atlas, et l'intellectuel qui a bac plus 5 ou bac plus 12 et puis qui se réfugie en France en parlant le français, l'arabe, etc., etc. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Et quand Dominique disait que j'étais formateur 10 ans sur le terrain. Et j'ai vu des contrastes énormes. C'est-à-dire qu'entre arabophones, voire entre algériens, par exemple, je me souviens d'un groupe où il y avait des conflits entre des gens qui étaient analphabètes, donc des travailleurs qui étaient là, vous entendez quelqu'un ce matin qui disait depuis toujours, oui presque, c'est presque ça, eux ils sont venus mais ils sont presque là depuis toujours, et un intellectuel qui était réfugié depuis quelques mois en France, et il y avait une vraie mésentente, ils avaient la même carte d'identité, sauf qu'ils ne se comprenaient sur rien du tout, donc c'est là que j'ai commencé à prendre conscience. C'est pas simplement... c'est sur le terrain. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, si on parle de culture d'origine, ça commence où? Ça finit où? Si on se dit culture d'origine, entrer dans la culture du pays d'accueil. Mais là encore, c'est très compliqué. Donc, si on essaye pour arriver tout doucement à la question des bibliothèques, c'est que la bibliothèque, c'est vraiment un lieu de médiation. Ça, j'enfonce une porte ouverte, sauf que avant de venir ici, avant qu'on m'invite, j'avais jamais pensé à ça sur l'apprentissage du français. Maintenant, je vais y penser. Parce que, effectivement, c'est quelque chose de capital. auxquels on ne pense pas, peut-être parce que les dispositifs d'apprentissage du français sont dans des dispositifs institutionnels, c'est le contrat d'accueil d'intégration, c'est des actions OFI, pour ceux à qui ça parle, l'OFI, vous savez ce que c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration, ou l'immigration et l'intégration, c'est eux qui sont, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est eux qui financent les formations linguistiques. Donc les formations linguistiques, j'entendais quelqu'un qui en parlait ce matin, effectivement, elles sont là, elles ont un temps limité. Une fois que les personnes ont fini l'apprentissage du français, c'est terminé. On ne les voit plus. Elles sont dans la nature et on ne sait pas. Et donc les bibliothèques, c'est effectivement un des moyens, c'est un centre de ressources inestimable. C'est un des moyens de faire perdurer l'apprentissage ou de lui faire prendre une nouvelle dimension. Alors maintenant, sur les modalités techniques ou les modalités pratiques, en lien avec ce que je disais sur la culture d'origine, c'est que sur le fond d'abord, culture d'origine, il faut être là aussi très prudent à savoir ce qu'on met derrière culture, c'est un mot valise mais tellement large qu'on ne sait plus trop ce qu'on y met, et en même temps, la question de fond c'est aussi sur qu'est-ce qu'on entend par intégration. Alors là on n'entrera pas dans le débat parce que je vais rater mon train sinon, mais la question de l'intégration, c'est de savoir si culture d'origine, oui, pour valoriser, pour une continuité, pour toute une série de choses qui permettent à l'individu de se développer, mais attention peut-être à ne pas avoir pensé culture d'origine en regardant l'intégration comme dans un rétroviseur. C'est-à-dire que pour la bibliothèque, ça peut être une voie de passage entre, effectivement, leur culture, je vais y revenir peut-être sur les livres, mais une voie de passage entre... disons, ces références, je vais dire plutôt que culture, ces références multiples qu'on quitte, qu'on laisse, et celles qu'on va forcément adopter. Parce que, là encore, sur la question de l'intégration, langue d'origine, culture d'origine, il y a quelque chose qu'on oublie toujours, et c'est là-dessus que nous, comme chercheurs, on essaye de ne pas l'oublier, c'est quel que soit le discours qu'on ait là-dessus. J'entendais aussi ce matin, disant, ah ben non, en France, c'est plutôt carrément l'assimilation. Mais c'est pas alors maintenant, c'est inclusion, c'est un terme à la mode qui vient du Conseil de l'Europe, c'est plus doux, c'est plus soft, hein, inclusion. Intégration, c'est déjà trop fort. Donc on a inclusion, intégration, assimilation. Et on a des débats sans fin là-dessus. Sauf que, quelle que soit la position qu'on a, qu'on soit inclusiviste, intégrationniste, assimilationniste ou je ne sais quoi, le problème, c'est qu'il y a un processus qui est indépendant des discours qu'on tient sur lui. Et ce processus, c'est bien un processus qu'on l'appelle comme on veut, qui est un processus d'entrée. Et d'appropriation de tout ce qui fait la société du pays d'accueil. Tout simplement, il y a une chose, c'est que là, peut-être, c'était moins clair ce que j'avais entendu. Les migrants sont ceux qui sont pas nés en France ou qui sont arrivés très jeunes et qui arrivent en France. Les autres, on parle issus de l'immigration ou descendants d'immigrés, ils ne sont plus immigrés. Et ça change tout. Pour Abdelmalek Sayad, il l'a dit le premier, il a dit de toute façon ils sont plus ni dans une ni dans l'autre, et donc qu'on le veuille ou non, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est un processus de toute façon au final d'assimilation, et ça se passe sur une chose bien simple, c'est que si on considère le migrant, le fils ou la fille de migrants, petit-fils, etc., il y a quelque chose de très simple qui se passe, c'est les intermariages. Donc, ça, on se dit, on cultive les liens avec le pays d'origine. Mais comment voulez-vous cultiver des liens avec le pays d'origine quand des enfants, comme les miens d'ailleurs, ont trois ou quatre origines différentes? Lequel on cultive? Lequel? Donc, est-ce qu'on le cultive artificiellement pour ce que j'appelle une injonction identitaire? T'as telle origine, souviens-t'en, etc. Je ne crois pas que ce soit très bon, et de toute façon, je pense que n'importe quel être humain, une fois qu'il est né ici, et même que son père ou sa mère sont nés ici, le pays d'origine, c'est très loin. Donc, soit il y a une autre solution, et je pense que là, personne n'est d'accord, nulle part en France, c'est la solution des Amish, c'est-à-dire que des Amish, vous savez, le groupe aux États-Unis, voilà, on vit entre nous, endogamie stricte. Alors, il y en a qui essayent toujours de le faire, endogamie stricte, maintien de... Bon, je pense que personne n'en veut. Donc, la vie, tout simplement, fait que ça s'intègre de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Donc, l'idée, c'est effectivement, on en parlait ce matin, qu'il n'y ait pas des problèmes de crispation identitaire ou de difficulté, parce que c'est un traumatisme de passer de l'un à l'autre. Et donc, la question, c'est de savoir comment on peut passer de l'un à l'autre le mieux possible.
Juste peut-être pour arrêter un peu le débat à propos du, de ce qui a été affirmé ce matin, et puis que la personne n'est pas là, donc on ne peut pas complètement répondre. Je sais que ça va plus loin. Mais est-ce que vous pourriez peut-être, très vite, parce qu'il faut qu'on puisse donner la parole aux uns et aux autres, et on pourra discuter après, revenir, puisque là, vous avez un point de vue très précis sur la diversité des formes d'apprentissage et le parcours sociolinguistique. Je ne vous donne que 2 ou 3 minutes,
ouais.
Parce que
je vais comprendre. Donc, sur cette difficulté, c'est que de toute façon, là, j'ai entendu ce matin aussi, c'est que c'est un métier quand même. On ne peut pas dire qu'on fait ça, et la plupart d'entre vous, ce n'est pas leur métier, mais il est possible quand même de trouver, c'est pour ça que je vous dis maintenant, je vais commencer peut-être à m'y mettre, peut-être une étudiante qui veut faire un, qui commence un doctorat, qui travaille un petit peu sur ces questions-là, donc ça veut dire trouver les modalités techniques d'apprentissage du français avec la bibliothèque comme outil, voilà, on va l'appeler comme ça. Donc ça, c'est particulier parce que là, ça suppose aussi qu'on réfléchisse à tout ce qui concerne les rapports à l'écrit, les rapports à la langue, et c'est pas simplement la langue d'origine, c'est les rapports à la langue ou les rapports à l'écrit. Parce que là, on a de tout, notamment sur ce qui concerne la maîtrise de l'écrit, y compris dans la langue première. Donc là, tout est à penser, tout est à réfléchir. Alors il y a peut-être une chose, et là-dessus je vais renvoyer, c'est qu'on a, on est en train de créer un site qui s'appelle, si vous tapez, je fais pas de pub et vous verrez, c'est des outils, des activités gratuites qu'on met en ligne, qui s'appelle Portail Fly. Vous tapez Portail Fly sur le moteur de recherche que vous voulez, et vous tombez dessus, il est hébergé par le labo Portail Fly, français langue d'intégration, FLI. Et là, on met des activités en ligne disponibles à tout le monde gratuitement. Et donc, peut-être que bientôt, on va, en réfléchissant un peu plus près, il y aura peut-être des choses qui concernent les bibliothèques directement.
Voilà, ben, je crois que pour les collègues qui vont intervenir maintenant, vous allez entendre à la fois un certain nombre d'expériences où l'apprentissage du français non seulement a lieu dans la bibliothèque, mais un certain nombre de ressources sont mises en place de manière à ce que des gens qui ne parlent pas bien le français, qui veulent perfectionner le français, puissent le faire. Donc je vais passer la parole à Cécile Denier, qui est chef du service auto-formation de la BPI, et je crois que auto-formation dit bien à la fois l'idée des apprentissages et de la formation tout au long de la vie. Et la BPI est connue comme à la fois lieu d'expérimentation et ayant une vieille tradition sur l'apprentissage des langues, et en particulier l'apprentissage du français, pour un public qui ne parle pas le français, avec une grande diversité, je crois, du public ou des publics qui fréquentent ces services. À vous, Cécile.
Oui, alors bonjour à tous. Je pense que vous connaissez déjà, pour beaucoup d'entre vous, ce que nous faisons à la BPI. Je le rappelle rapidement. L'auto-formation, c'est donc un espace où on peut apprendre non seulement les langues, mais plein d'autres choses, la bureautique, code de la route, voilà, plein de disciplines. Mais ici, on est là pour parler plutôt de l'apprentissage du français. Ce qui est intéressant peut-être de rappeler, c'est que ça existe depuis l'ouverture du Centre Pompidou, depuis 77. Et depuis 77, on accueille des gens qui viennent apprendre les langues pour différents motifs. Dans la mesure où on ne fait pas d'inscription, on n'a pas forcément au courant de pourquoi ils apprennent et comment, mais c'est finalement, on le sait en discutant avec eux, mais s'ils souhaitent nous en parler, sinon on ne creuse pas forcément la question. Donc nous, on accueille tout le monde, que ce soit assimilation, intégration, voilà, peu importe en fait les raisons pour lesquelles ils apprennent le français ou d'autres langues. Parfois c'est pour un voyage, parfois c'est pour le travail. De toute façon, nous, on est présents pour les accueillir. Donc le principe, ce sont des cabines de langue et d'autres disciplines, mais là on parle des langues. C'est de l'auto-formation, mais c'est de l'auto-formation accompagnée quand même, puisque nous sommes entre 2 et 3 bibliothécaires présents en permanence, de l'ouverture à la fermeture de la bibliothèque. Les gens apprennent, donc on les guide, on leur demande ce qu'ils souhaitent, on essaye de leur trouver la méthode la plus appropriée, souvent ils tâtonnent un peu. Ils en essayent une autre, puis une autre. Parfois, il y en a 2, 3 en même temps qu'ils utilisent. S'ils ont des questions, ils reviennent vers nous. On circule dans l'espace pour répondre aux questions également. Voilà, donc on a dans nos collections on a à peu près 2000 méthodes de langue, donc c'est quand même pas mal. Et le français est la langue de loin la plus demandée. Parmi les langues, c'est la moitié de nos consultations, c'est pour le français. Hein, l'anglais arrive, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, bien après le français. Donc on est habitué à avoir depuis toujours un public de personnes dont, dont le français n'est pas la langue maternelle et qui viennent nous demander des méthodes. Donc l'auto-formation, c'est ça, ce sont des méthodes avec du personnel pour les guider. C'est depuis quelques années maintenant des ateliers de conversation, un petit peu comme on a vu ce matin. Nous aussi, on mène cette expérience depuis 6 ans. Au départ, c'était un atelier par semaine. Vu le succès immense dès le départ, on a réussi à démultiplier, donc à en faire 2. Maintenant, nous sommes à 3 par semaine, le vendredi, voilà, 14, 16, 18 heures. C'est totalement gratuit, c'est sans inscription, en tout cas pas d'inscription à l'avance. Les gens viennent un quart d'heure juste pour signer une feuille de présence, mais il n'y a pas d'inscription d'une fois sur l'autre, donc il n'y a pas de suivi nécessaire. Il y a parfois un suivi volontaire de certains d'entre eux, puisqu'on a un noyau de fidèles qui reviennent toutes les semaines. Mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent et qui reviennent, et voilà, et des nouvelles personnes à chaque semaine. Je ne sais pas, Dominique, sur quoi tu voulais que j'insiste.
Je crois que tu as pointé un certain nombre de choses qui comptent beaucoup sur la réussite de cette expérience. Alors, première chose, ce ne sont pas des professionnels de l'apprentissage qui animent ou qui organisent ces ateliers. Ça, je crois que c'est important de le dire. Et la deuxième chose, c'est, je crois que tu disais que le lieu ouvert est aussi extrêmement important. Et puis peut-être une question qui est un peu plus personnelle, mais je sais que tu as suivi un double, voire un multiple cursus, à savoir FLE et bibliothécaire. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait finalement se développer dans les bibliothèques, d'avoir finalement des bibliothécaires, comme dans beaucoup de pays anglo-saxons d'ailleurs, qui finalement ont cette double formation. Et je dirais que quand on voyait le film et que les migrants parlaient de Václav Havel, ils insistaient beaucoup sur l'apprentissage du français. Ils disaient parfois, j'ai pas été au cours, j'ai appris le français à la bibliothèque. Donc j'aimerais que tu réagisses.
Oui, alors j'ai effectivement eu la chance d'être prof de FLE avant d'être bibliothécaire, et la chance maintenant d'être à la BPI et d'allier un peu mes deux compétences et deux cursus qui m'intéressent beaucoup, les bibliothèques et l'apprentissage du français. Effectivement, il n'y a pas besoin d'être formateur de FLE pour être bibliothécaire et animer des ateliers de conversation. Ça se fait de manière assez spontanée, assez facile finalement. En général, la formation que nous suivons, on est une douzaine maintenant d'animateurs de FLE. On s'observe les uns les autres au démarrage pour avoir une petite idée de comment ça marche. Moi, je propose une formation de 2 heures, donc c'est quand même assez court. Et ça suffit largement, en fait. Hein. C'est beaucoup une question d'écoute, d'envie de le faire, d'envie d'animer un groupe. Et après, il y a des petites astuces, des activités orales qu'on peut se transmettre les uns les autres. On se fait des réunions aussi entre nous pour partager nos idées. Et voilà. Je ne sais plus quelle question tu m'as posée.
Non, c'est l'espace dans lequel ça se passe.
Alors, le fait que ce soit ouvert, l'espace auto-formation est très ouvert. L'atelier, c'est une salle fermée, mais qui est, voilà, c'est ouvert à tous à partir du moment où on se présente un quart d'heure avant l'atelier. Et je pense, oui, pour avoir cette double expérience de professeur de FLE initialement et maintenant bibliothécaire et parfois animatrice d'atelier, je me rends compte que l'approche n'est pas la même et qu'en termes de libération de la parole et donc d'apprentissage du français, c'est vraiment intéressant. Et je me dis souvent que si je devais à nouveau enseigner le FLE, ce que peut-être je ferai plus tard, je ne le ferai pas de la même façon en fait. Ça m'a énormément appris le fait d'être déconnecté de toute contrainte de programme, d'objectifs pédagogiques, de choses comme ça. On est totalement libre dans ces ateliers de FLE. Il y a un effet de libératoire sur nos usagers qui est assez extraordinaire à observer. Ça nous a été rapporté, on a un de nos usagers qui se trouve être documentariste de métier et qui nous a demandé de faire un film sur les ateliers, donc prochainement à la rentrée, je crois, il sera diffusé. Ça va être, je crois, un très beau film sur les ateliers. Et sa motivation, en fait, pour ce film, c'était justement ça. Il nous a dit, moi, j'ai pris des cours, bon, c'était nécessaire, il me fallait les bases en français, mais là où j'ai le plus appris et développé, en tout cas, la partie orale, c'est dans vos ateliers. Donc, c'était un beau compliment de sa part.
Et peut-être une autre question qui peut-être ça vous fera réagir, Hervé Adami, c'est le fait que dans ces ateliers, on le voit à la BPI, et je crois qu'on le verra aussi à Cergy Pontoise, il y a une grande mixité sociale, une mixité de génération, et donc une mixité, on va dire, de parcours sociolinguistique, et que finalement, on aurait pu être un peu inquiet sur un intellectuel médecin qui arrive d'Afghanistan et qui veut pratiquer son français, et puis un vieux Chibani et quelqu'un de plus jeune qui est un travailleur qui arrive aussi, africain. Et finalement, je crois que les uns et les autres, on constate que ça marche bien ensemble.
Oui, alors là, on a démarré sans savoir, hein, c'était très expérimental au tout début, mais effectivement, cette mixité sociale est assez étonnante. On a à la fois, on a vraiment tous les profils, tous les âges, des hommes, des femmes, des demandeurs d'asile, des étudiants Erasmus Bac plus 5, des gens qui cherchent du travail, des gens qui... voilà, on a vraiment des retraités qui viennent passer un peu de bon temps en France et qui n'ont pas de soucis particuliers, en tout cas sur le plan financier. On a vraiment de tout et ça nous donne des confrontations dans les ateliers assez extraordinaires. Hein, quand un Afghan nous raconte les difficultés, comme ça a été évoqué ce matin, pour obtenir des papiers, et qu'il nous raconte en fait que son job maintenant, c'est d'expliquer à ses compatriotes comment faire, et qu'il partage ça avec une jeune étudiante espagnole, Erasmus, qui ne s'est jamais posé ce genre de questions avant, ou avec on a eu le cas d'une retraitée, je me souviens, qui demandait à un étudiant afghan où est-ce qu'il passait ses vacances. Donc, ouais, elle ne se rendait pas bien compte en fait, qu'il n'a pas trop l'argent ni la disponibilité d'esprit de passer des vacances. Il est juste à Paris en train d'essayer de survivre. Voilà, où est-ce qu'il suit ses études, parce qu'il disait étudiant. En fait, ses études, il suit des cours de français dans une association locale. Voilà, donc toutes ces confrontations-là avec des questions naïves en fait, que les gens se posent et puis se rendent compte que voilà, il y a des gens qui vivent différemment d'eux et que c'est intéressant d'en discuter. Ça, on le vit au quotidien dans nos ateliers.
Donc, des formes finalement de solidarité et l'introduction de l'oralité dans une bibliothèque, ce qui n'était pas si naturel à une certaine époque, puisqu'il y avait un joli petit dessin sur les bibliothèques où il y avait deux femmes, allez, je vais dire maghrébines, immigrées maghrébines, et il n'y avait pas de bruit dans la bibliothèque, et elle disait, mais il a dû y avoir un enterrement ici, il n'y a pas de bruit du tout. C'était un joli petit dessin qu'on avait mis sur...
Est-ce que je pourrais juste compléter l'oralité? En effet, c'est relativement nouveau, puisqu'on n'avait que des méthodes. Donc, vous parliez de rapport à l'écrit tout à l'heure. Donc, jusqu'à présent, on n'avait que des méthodes pour apprendre à l'écrit, un peu la compréhension orale, mais c'était quand même essentiellement basé sur l'écrit. Et on avait constamment la question de « oui, mais moi, ce que je veux, c'est apprendre à parler ». Et en fait, on était un petit peu coincé avec nos méthodes, qui, même les meilleures d'entre elles, on peut répéter des phrases, mais c'est pas parler, c'est pas converser. Donc c'est un peu l'idée qu'a émergé petit à petit, de se dire qu'une bibliothèque pourrait aussi peut-être proposer des ateliers. Donc les ateliers sont vraiment conçus en complémentarité avec nos collections, qui sont plus basées sur l'écrit.
C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous utilisez la bibliothèque comme centre de ressources aussi, ou c'est uniquement des méthodes? Il y a vraiment l'appui sur les ressources, sur toutes les ressources de la bibliothèque.
Centre de ressources. Là, vous parlez des méthodes, vous dites qu'on a donné une méthode de l'autre. Oui, oui.
Est-ce que vous utilisez le matériel que vous avez dans les bibliothèques, les livres, les disques, etc., pour vos interventions avec l'apprentissage.
Alors oui, on peut tout à fait s'appuyer. Ça nous arrive d'aller piocher des journaux, d'aller piocher livres de photos.
Voilà, c'est ça.
Sur tel ou tel thème.
Oui, ça, c'est une vraie piste, ça, pour la bibliothèque. Oui, oui.
Alors après, l'idée, c'est pas de faire un cours de langue, donc c'est vraiment mais ça peut être un prétexte à la discussion. Ouais. Des images, de la presse, autre que les méthodes, en effet.
Je crois qu'on va continuer à évoquer ces questions avec peut-être une intervention à deux voix, puisque nous avons Pascal Leray, qui est directeur de la bibliothèque d'études et d'information, de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, et où, à la fois pour des raisons de circonstances et surtout par un programme, je dirais presque inscrit dans la génétique de la bibliothèque, c'était une des demandes et un des enjeux de cette bibliothèque. Et puis, vous allez aussi nous l'expliquer par un certain nombre de circonstances, parce que c'est souvent par cela qu'on réagit et qu'on met en place des services, et c'est plutôt bien d'avoir ce pragmatisme et d'être attentif à ce, pas toujours des demandes, mais en tout cas à ce qu'on voit apparaître comme besoin. Et c'est aussi une des questions, c'est comment on arrive à définir les besoins, ce genre de besoins, dans une bibliothèque. Donc, pour votre ville, votre communauté, ça a été l'arrivée, je crois, de deux flux migratoires, deux groupes de migrants qui sont arrivés. Ça, vous allez nous en parler. Comme j'ai envie que vous fassiez peut-être à deux voix, je présente tout de suite Jessica Herman, puisque vous avez beaucoup travaillé ensemble. Et là, nous avons donc une formatrice de FLE qui, elle aussi, a un très joli parcours cursus, à la fois d'historienne de FLE et de beaucoup d'autres choses, et qui peut-être offre quelque chose de plus, justement, quand on intervient sur ces questions. Donc, ce serait intéressant de voir comment vous travaillez de façon complémentaire. Il y a là aussi des ateliers de conversation. Donc, peut-être allez-y d'abord sur les circonstances et le projet de la bibliothèque. Et puis, je vous donne un micro à chacun, parce qu'on a dit que c'était une table ronde, donc on pouvait intervenir quand quelqu'un disait quelque chose qui vous plaisait ou ne vous plaisait pas.
Je vais faire attention à ce que je dis, alors. Non, au contraire, justement, je pense que le débat est l'essence de la vie, donc je pense que c'est très, très intéressant, et c'est très heureux qu'on soit là aujourd'hui, dans un contexte pas forcément facile. Très rapidement, d'abord des remerciements à la BPI, à l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis, aux intervenants qui sont là, parce que c'est certain que ces sujets-là sont vraiment cruciaux pour la société où on vit aujourd'hui. Et donc, effectivement, au niveau de Cergy-Pontoise, déjà très rapidement, vous vous situez, 35 km de Paris, c'est là où sont arrivés les extraterrestres dans les années 80, mais finalement, c'était un canular. En revanche, il y a bien une bibliothèque un peu étrange qui est arrivée en 2000, qui s'appelle Bibliothèque d'études et d'information, qui est une bibliothèque de lecture publique, mais à vocation documentaire, avec une certaine parenté. On est les petits cousins de la BPI, d'une certaine façon, par certains aspects. Et ce qui s'est dessiné au fil du temps, c'est effectivement que cette vocation documentaire avait une vocation à accompagner la formation tout au long de la vie des adultes, quels qu'ils soient. Donc le public étranger, enfin le public en besoin d'acquérir soit des bases, soit d'améliorer son niveau de français, a toujours été présent dans mes collections. En termes d'action, c'était plus compliqué. Quand je suis arrivé en 2010 à la BUI, donc j'ai essayé de comprendre ce que c'était que cette bibliothèque. Il y a aussi une discothèque. Et les collègues me disent, écoutez, il n'y a pas longtemps, il y a des Érythréens qui sont venus. Ils étaient 15, 20, 30, je ne sais plus. Et ils se sont emparés des ordinateurs. Et en fait, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une antenne de la CIMAD. Donc la réflexion, elle s'est poursuivie au fil de l'eau, mais c'est vrai que les échanges avec les centres sociaux, elle n'est pas très facile, pas forcément naturelle. Et ce n'est pas facile forcément de trouver des partenaires avec qui travailler, si ce n'est pour des visites en fait, un petit peu ponctuelles, qui sont déjà très bien, mais qui sont parfois frustrantes. Où on a souvent ce sentiment effectivement que les parents viennent pour leurs enfants aussi. Et quand la base de loisirs, donc l'île de loisirs de Cergy-Pontoise a accueilli en septembre dernier un flux de réfugiés irakiens, alors au niveau statutaire, je n'ai jamais compris s'ils étaient bien réfugiés, mais après ils sont bien réfugiés, irakiens et syriens, en tout cas dans les faits, quand on se connaît la situation là-bas, comme au Congo, comme dans beaucoup de pays où l'asile est refusé, ils le sont. On était très heureux que les bénévoles se soient tournés vers les bibliothèques de Cergy-Pontoise pour accompagner justement ces nouveaux habitants. Et en même temps, on était avec des personnes qui avaient un niveau zéro de français, donc c'était quand même très très compliqué. Heureusement, j'avais gardé le contact d'une formatrice qui est installée à côté de moi maintenant, parce qu'on avait quand même le sentiment qu'il fallait faire appel à quelqu'un de qualifié pour amorcer vraiment un travail d'accompagnement vivant avec des personnes qui étaient des primo-arrivants. Alors ça a été un petit peu bousculé, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais à un moment, l'atelier est né dans ce contexte-là, a vraiment été pratiquement un cours de français pour un petit groupe d'étudiants particuliers, qui étaient des étudiants au sens strict du terme, pendant un mois environ. Et quand la situation a commencé à se dégager, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont été relogés à droite à gauche, on a réenclenché le projet qui était le projet un petit peu initial, qui était de faire des ateliers de conversation très libres, sur le même format un petit peu que ce que Cécile a décrit. Nous, effectivement, on n'avait pas dans l'équipe de personnes qui avaient de formation, mais par contre, on avait quelqu'un qui pouvait faire ce travail et à qui je vais laisser la parole, parce qu'effectivement, à partir de là, on a commencé à vouloir organiser quelque chose d'assez construit avec des groupes qui allaient d'octobre à décembre, puis janvier à mars, et puis de mars à avril, et puis ça s'est passé autrement. Mais comme je n'étais pas là, je vais laisser la parole donc à Jessica sur la façon dont les ateliers se sont déroulés, sur la vie permanente des ateliers, en fait, et comment une formatrice linguistique peut s'en sortir dans un
moment pareil. Et donc, je crois que c'est intéressant parce que là, on a la parole d'une formatrice. Donc, vous avez vraiment à la fois une technique, des connaissances et un savoir sur les questions de cours et d'apprentissage du français, et en même temps cette initiative que vous avez prise, qui est pourtant menée par vous, n'est pas du même ordre qu'un cours de français. Donc vous allez peut-être un peu insister sur ces doubles rapports justement entre cours et ateliers, et comment ça se complète.
Oui, alors effectivement, ce n'est pas un cours au sens où je ne vais pas dire, aujourd'hui, on va faire comme ci ou comme ça. Sinon, honnêtement, là où le FLE m'aide le plus, alors moi, je ne fais pas que FLE, je fais de l'alpha, de l'illettrisme, de la remise à niveau aussi. Je pratique aussi d'autres langues, donc effectivement, par rapport à d'autres collègues de FLE, j'ai encore un autre rapport. J'interviens aussi à côté énormément dans l'insertion, c'est-à-dire que je suis une formatrice indépendante, et j'interviens dans les structures d'insertion professionnelle. Donc j'ai plus un côté linguistique professionnel du français que juste de la conversation, en fait. Et d'ailleurs, la demande de beaucoup qui viennent au niveau de l'atelier, c'est pour trouver du travail. La plus forte demande, c'est là, il faut qu'on passe des entretiens d'embauche, comment on fait, comment on peut répondre aux questions. Donc, il va y avoir certes un aspect culturel, politique, des questions de civilisation comme ça, mais quand ils arrivent, la plupart, c'est vraiment, il faut que je trouve du boulot, comment on fait. Donc là-dessus, ça a été, oui, effectivement, ça ressemble pas trop à un cours de FLE, c'est plutôt un cours de français professionnel au début, mais la volonté, c'était vraiment de ne pas faire un cours et de rester au niveau de l'atelier. Et du coup, on a perdu du monde aussi, parce qu'au niveau des les personnes qui venaient au début, elles s'attendaient à un cours de français. Et or non, moi je reste vraiment qu'au niveau de l'oral, de la production orale, donc, parce que dans un cours de FLE, il y a les quatre compétences, compréhension écrite, production écrite, compréhension orale et production orale. Donc je vais dire que je travaille juste la production orale essentiellement, et de pouvoir aussi les amener à se parler entre eux, parce que c'est des personnes effectivement, comme vous disiez, très, très mixtes socialement. Et c'est pas évident de faire parler même des personnes, par exemple parler des personnes du Maghreb entre un Tunisien et un Maghrébin, et un Marocain, c'est pas facile d'enclencher une discussion, c'est comme nous, quand on, Même entre Français, si on est quatre personnes autour d'une table, on ne va pas se mettre à parler comme ça tout de suite. Donc moi, mon rôle, c'est d'enclencher la discussion. Après, les ateliers, ils ont une particularité, c'est que c'est le samedi matin, et on les a ouverts aux familles. C'est-à-dire qu'on a dit aux femmes, parce que c'est essentiellement elles que ça concerne, vous pouvez venir avec les enfants. Donc il y a des ateliers où il y a eu des samedis où il y avait 10 enfants et en même temps on parlait à côté. Les mamans suivaient l'atelier. On a aussi des personnes qui sont que je connais d'autres structures qui cherchent des cours, donc qui ont un bon oral mais qui ne savent qu'on n'a jamais fait d'études. Donc elles sont confrontées à des personnes qui bac plus 5, des doctorants ou des choses comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. je me perds un peu. Ce qui change aussi pour moi, c'est ce lieu, c'est la bibliothèque. C'est, comme disait M. Adami, on n'y pense pas en fait dans notre formation à nous dire, oui, vous pouvez aussi donner des cours, faire des cours d'oral, des ateliers d'oral, dans le cadre d'une bibliothèque. Et puis avec toutes les contraintes que ça engendre, parler du silence, effectivement, au début, il a fallu qu'on déménage à un moment l'atelier, parce que dans le cadre des révisions du bac et des partiels, il parlait un petit peu trop fort, quoi. Donc, on est descendu en discothèque, c'est ça ? Ce qui les a beaucoup fait rire, parce que pour eux, la discothèque, dans les manuels, c'est la boîte de nuit. Donc, au début, ils n'ont pas bien compris où on allait.
Pas les seuls.
Mais voilà, du coup, on est plus tranquille.
Oui, là, c'était un choix, mais c'était un choix programmé, en fait. L'idée, c'est de les ateliers se passent dans la bibliothèque en temps de service public, dans un coin qui est effectivement un petit peu reculé pour garantir la tranquillité, mais à ciel ouvert. Donc c'était très rigolo. En décembre, il y a eu un atelier qui s'est concentré sur le mot blanc. Et donc, pendant que les étudiants étudiaient, on entendait parler du mariage blanc, on entendait parler de toutes sortes de choses, et dans une très bonne ambiance. Et je crois que c'est presque un antidote à l'ambiance, au climat actuel aussi, hein, cette convivialité, cette bonne humeur de l'atelier. Mais donc, effectivement, il y avait effectivement le choix de dire, pendant qu'il y aura la révision du bac, on sait qu'on est... on a les lycéens qui sont partout, enfin, les lycéens, peut-être collégiens et puis les étudiants, que déjà, c'est pas forcément évident à gérer en termes de nuisances sonores. Donc, des ateliers en plus de ça, c'était compliqué. Donc, effectivement, on a vidé la discothèque de ses disques. Christine serait contente. mais on les a gardés à la réserve, bien sûr. Et l'atelier maintenant se passe dans cette zone-là. Mais ensuite, je pense qu'on verra où il se repassera. Mais l'idée, effectivement, c'est toujours de travailler sur ces différents usages et de les faire vivre ensemble, ce qui permet aussi justement de décloisonner et de faire rebondir les propositions les unes sur les autres. Peut-être si on a juste une minute, justement, et pour aussi Hervé, les rebondis, alors je ne les ai pas tous en tête, mais c'est assez rigolo parce que l'atelier, il est hebdomadaire, donc il est vendredi et samedi, ou samedi et lundi en ce moment, et on a un programme d'animation, et régulièrement on y travaille ensemble, enfin on ne travaille pas au programme d'animation ensemble, mais on travaille à voir quelles sont les propositions qui peuvent être justement des passerelles intéressantes. Il y a eu un très beau moment avec une pièce de théâtre qui s'appelle Un cœur Moulinex, qui est l'histoire de l'entreprise Moulinex, vue par un de ses employés, je crois. Et alors là, ça a eu un succès incroyable. On a une autre animation qu'on a faite qui est assez drôle, qui était autour de la cosmétique. C'était dans le cadre de la semaine de l'industrie, donc c'était très sérieux. Il s'agissait de promouvoir la filière industrielle cosmétique avec l'école de biologie industrielle, avec des ateliers de fabrication de produits cosmétiques. Donc là aussi, ils ont participé. Et puis, on avait une table ronde qui a été un flop quasi total. Ça s'appelait Baudelaire, le poète Baudelaire, le féminin, la cosmétique. Voilà. L'idée, c'était de faire, donc c'était assez logique que ce soit un flop. Mais ça a permis de passer une soirée très sympa, où on avait... le public, c'était quasiment que les participants de l'atelier de Jessica. Donc, il y avait quatre personnes. Je crois qu'elles étaient principalement maghrébines. On avait le directeur du théâtre, Jean-Joël Le Chaplin, du théâtre de la scène nationale, de l'apostrophe. Donc, quelqu'un qui est vraiment très, très intéressant. On avait une critique d'art qui a beaucoup parlé du travail de cet artiste, dont Orlan, voilà. Jessica, qui était là non plus au titre de sa formation linguistique, mais des études féminines cette fois, puisque c'était la question du rapport entre la cosmétique, le féminin et j'oublie le troisième terme. Voilà. Donc effectivement, outre le fait qu'effectivement il y a les collections, qu'on voit les gens revenir, que quand Jessica leur parle d'un sujet, par exemple la Révolution française, on voit ensuite les apprenants venir demander des livres sur le sujet. Donc il y a toute une série, effectivement, du fait que l'atelier se passe dans la bibliothèque, de connexions qui se font et qui ne sont pas simplement des outils d'acquisition linguistique, qui sont aussi des outils linguistiques, mais aussi vraiment des outils des messages de bienvenue, je dirais, parce que pour ne pas rentrer dans les débats assimilation, intégration, voilà, on souhaite la bienvenue à travers ces dispositifs-là.
Oui, c'était juste pour parler d'un projet concrètement qu'on, c'est-à-dire notre groupe de recherche s'appelle Langage, Travail et Formation de l'Université de Lorraine, qu'on mène avec un organisme de formation, Formabilis, qui est basé à Nancy. C'est un projet qui a été financé, il y a eu un petit financement de la DGLFLF, donc au ministère de la Culture, et ça pourrait être en lien, juste simplement, il manque juste le petit trait d'union bibliothèque, justement, ça pourrait être intéressant. L'idée, c'est que il y a une petite commune, toute petite commune qui se situe à une vingtaine de minutes de Nancy, s'appelle Jean de Lincourt. C'est une ancienne tuilerie, donc c'est une petite ville ouvrière. La tuilerie a fermé il y a assez longtemps, mais on retrouve les traces physiques, mais on retrouve aussi le reste dans cette mémoire ouvrière qui s'est transmise. Et donc l'idée, ça a été qu'on a été chercher des anciens de la tuilerie, des anciens dans tous les sens du terme, ceux qui y ont travaillé et qui sont maintenant assez âgés, et puis on les a filmés. Et donc on leur a dit, voilà, racontez, dites-nous ce que vous pensez de la tuilerie, vos souvenirs, les meilleurs, les bons, etc., etc. Donc bien sûr, à Jean de Lincourt, il y a des Italiens et des Polonais essentiellement, parce que la tuilerie s'est arrêtée dans les années 80-90, donc il y a essentiellement une immigration italienne et polonaise, mais il y en a beaucoup. Et donc ces gens nous parlaient de la tuilerie, donc l'idée c'était d'enregistrer ça, et de repasser ensuite ces enregistrements, donc oraux, à des jeunes, en particulier migrants ou pas, francophones aussi, en situation, en formation d'insertion, de leur repasser ces vidéos et de leur demander de réécrire, sous la forme d'un principe qui s'appelle la dictée à l'adulte ou la dictée de l'expert, de réécrire ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire c'est un atelier d'écriture, parce que la demande de la DGLF c'était ça au départ, il fallait que ce soit qu'il y ait un lien entre le patrimoine ou la culture, et où la culture et la question de la maîtrise de la langue. Donc c'est un moyen, donc ils vont écouter ces vidéos, ils vont entendre. Donc pour nous, tout y est à peu près là. C'est-à-dire qu'il y a cette question du patrimoine, de la transmission de la mémoire, mais ces jeunes qu'on va choisir, on ne les a pas choisis au hasard. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont eux-mêmes issus des classes populaires, qui sont en difficulté en insertion. Et donc le moyen, c'était de transmettre cette mémoire, de dire, voilà, j'ai vécu ça. Voilà, il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui venaient pas d'Italie, il y en a qui venaient du village d'à côté. Mais en tout cas, ces jeunes qui écoutent ça ont une histoire. Et c'était un peu le lien, quelle que soit l'origine géographique des familles, il y a quand même ce lien, là. Ici et là, on est dans la région parisienne, ce lien, il existe hein, depuis les années 20, les années 30. C'est une innombrable usine. Nous, en Lorraine, c'est encore le cas. Donc, c'est transmission de la mémoire, le patrimoine, passer par la culture. Et là où je dis, il manque un autre projet, ben, c'est pas prévu de toute façon, mais maintenant que j'y pense, c'est pas impossible qu'on fasse ce lien, parce que quand vous me disiez, c'est pour ça que je vous demandais aussi les ressources, c'est que ces ressources, on a été obligé de les créer, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Cette mémoire-là, il faut aller chercher des bouquins qui ont été édités dans les années 70, à la belle époque où on pensait un peu aux ouvriers, mais où on va retrouver, alors on trouve des trucs sur Jean de Lincourt, sur machin, maintenant il n'y a plus rien. Donc on est obligé de recréer ces ressources en interrogeant les gens. Cette mémoire-là, elle s'en va, elle part. Elle s'en va, parce qu'ils ont 80, 90 ans, ces gens-là. Donc, il n'y aura plus rien après eux. Il n'y aura plus que les souvenirs des souvenirs, ces ouvriers-là. Donc, l'idée, c'est que si on arrive justement à créer peut-être un fonds documentaire ou faire le lien avec les bibliothèques, parce que c'est sûr qu'au moins dans les grandes bibliothèques, on retrouve des trucs qui ont été édités il y a longtemps. Donc, faire ce lien-là entre... il y a aussi des photos. On a beaucoup travaillé sur des photos. C'est-à-dire faire parler quand ça évoque quelque chose, quoi. Donc voilà, il y a peut-être je vous parlais juste de ce projet-là, parce que il y a forcément un lien, notamment avec des grosses bibliothèques. Alors nous, ça peut être peut-être la bibliothèque municipale à Nancy, les autres c'est un peu petit, quoi, mais bon.
Donc là, vous faites bien le lien, finalement, entre la biographie langagière, linguistique, sociolangagière, j'oublie, ou sociolinguistique de de chacun et la bibliothèque comme un lieu culturel, un lieu du patrimoine. Et ça vous paraît être finalement, je sais, ça vous paraît être le lien possible justement sur les questions d'apprentissage. Parce qu'on n'apprend pas seulement une langue, mais on apprend comme un enfant d'ailleurs.
C'est-à-dire que ce n'est pas
un défaut de langage, c'est un défaut de la référence à quoi ça rapporte.
De maîtrise technique, voilà. Presque. Le lien,
maîtrise
c'est,
technique le lien, et culturelle.
Le lien, c'est qu'il y en a d'autres qui sont venus avant eux. Voilà. Ceux qui sont là aujourd'hui, il y en a des générations d'immigrés qui sont arrivés avant eux, qui ont eu ce parcours-là. Donc voilà, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul. Et donc ça se transmet. Qu'est-ce que tu as vécu avant moi? Comment tu l'as vécu? Je pense que c'est ça aussi le lien. Ce n'est pas simplement en passant au-dessus du pays, en avoir un pays d'origine qu'ils ont quitté, qu'à la limite certains ne veulent plus jamais revoir. Voilà, ça peut être des ruptures aussi comme ça. Mais c'est cette transmission, ce retour, il peut être aussi sur le parcours dans le pays d'accueil.
Alors, je dirais que les ateliers sont aussi beaucoup de... Alors, pour faire le lien avec le FLE et avec tout ça, effectivement, Pascal disait que je m'appuie énormément sur le programme. Et voilà, pour la pièce de théâtre, donc j'ai fait un atelier par rapport à l'économie. Du coup, on a parlé de toute l'économie du pays. Ils ont posé des questions hyper pointues et précises par rapport à ça. Et forcément, alors je ne sais pas comment ça se passe à la BPI, mais moi, régulièrement, j'ai toujours des questions de grammaire, de conjugaison. À un moment, je suis forcée de faire un point de prononciation aussi, comment faire de la phonétique. Donc là, pour dans ma formation, voilà, je peux répondre à ça. Je ne sais pas comment vous l'avez aussi, donc ça va, je pense. Alors, peut-être que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va peut-être un petit peu être déconcerté. Je sais pas.
On a assez peu de questions finalement de grammaire phonétique, ça peut arriver, mais comme on a juste derrière nous un beau fond de grammaire, d'usuel, de dictionnaire, de méthode de phonétique, c'est assez facile en fait de leur dire, je vous montrerai après comment comment perfectionner ou comment répondre à votre question. Alors ça dépend quel type de question, hein. Si c'est une question extrêmement simple et rapide, on y répond. On ne va pas dire, ce n'est pas un cours de grammaire, je ne vous réponds pas. Par contre, s'il faut se mettre à réexpliquer les différents temps du passé en français, on ne le fait pas, ce n'est pas du tout. Mais on le dit en général, on donne un peu le mode d'emploi au début de chaque atelier, puisqu'on a toujours des nouveaux arrivants. On leur dit, attention, ce n'est pas un cours de FLE, on ne va pas vous refaire une explication de texte, ce n'est pas un cours de civilisation non plus, c'est vraiment de la conversation, c'est vraiment de la convivialité. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la plupart des gens qui s'inscrivent aux ateliers, que ce soit en français comme dans les autres langues aussi, je n'en ai pas parlé là puisque ce n'est pas le sujet, mais on a également des ateliers en anglais, en espagnol, en portugais et en chinois. Les gens qui s'inscrivent, leur motivation initiale, c'est m'améliorer à l'oral dans cette langue. Et l'objectif qui vient juste après, mais ça, ils s'en rendent compte une fois qu'ils ont suivi au moins un atelier, c'est de dire, mais en fait, c'est drôlement sympa et c'est aussi un lieu pour rencontrer des gens et pour créer du lien. Donc, mais c'est intéressant de voir toujours la progression en fait, du discours entre quand ils arrivent la première fois et quand ils reviennent les fois suivantes. Parce qu'on a des gens qui parlent très bien, hein, qui n'ont vraiment plus besoin d'améliorer vraiment leur français. Ils viennent pour le plaisir de venir, en fait.
Justement, Jessica, vous faisiez quand même une différence entre, d'une part, des gens qui ont une vraie formation en matière de FLE, et c'est votre cas, des bibliothécaires, après tout, qui n'en ont pas forcément, mais qui s'improvisent, qui ont osé s'improviser pour ces ateliers de conversation. Et je crois que dans toutes les expériences, et il y en a de plus en plus dans les bibliothèques, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est la qualité d'un bibliothécaire de savoir communiquer et converser. C'est peut-être une des qualités les plus importantes. Non, mais c'est fondamental. Et autre question qui se rajoute un peu à celle-là, c'est éventuellement la place du bénévolat. Parce que moi, je peux imaginer un certain nombre de choses aujourd'hui qui relèveraient peut-être du bénévolat comme des répétiteurs, qui ne seraient pas l'atelier de conversation, qui ne seraient pas les cours de français, mais qui seraient aussi des aides plus individualisées. Et la bibliothèque, comme lieu qui met en relation des citoyens qui ont envie de s'engager des besoins recensés du public. Et quand c'est une institution publique qui met en relation, il y a peut-être une meilleure sécurité que quand c'est ailleurs, j'en sais rien. Donc, est-ce que vous, sur ces questions autour du bénévolat, est-ce que vous pouvez revenir dessus. Puis après, j'aimerais bien que Vaclav Havel prenne la parole, que vous preniez la parole, mais la bibliothèque de Vaclav Havel, parce qu'elle a un panel tellement complet sur et le groupe de conversation et les formations, et le témoignage dans les films, c'est on a appris le français dans la bibliothèque, c'était à Vaclav Havel.
Oui, alors, bon, je vais me faire tuer, mais je n'ai rien contre le bénévolat en soi, c'est juste que, effectivement, dans le cadre du FLE, de la formation des langues étrangères, on a souvent ce problème-là de, et puis moi-même, hein, de, voilà, je postule je suis comme tout le monde, j'ai besoin de manger aussi, excusez-moi. Et en fait, dans le cadre de mon travail, vu que tout le monde parle français, donc tout le monde peut l'enseigner. C'est-à-dire que, il n'y a pas que moi, d'autres formateurs aussi, on est confrontés de plus en plus à « Ah mais non, mais on n'a pas besoin de vous, parce qu'en fait, on a des bénévoles, donc vous ne servez à rien. » Enfin, c'est un peu violent, c'est pas non plus évident de s'entendre dire ça, d'autant plus que dans les cadres des offres d'emploi, on nous demande de plus en plus un bac plus 5. Donc, il y a un peu une espèce de paradoxe entre la réalité du marché du travail pour les formateurs comme moi et ce qui se passe au niveau de la France, enfin en général. Donc après le bénévolat, il y a plein de bonnes volontés. Moi en tant que formatrice, j'ai pas souvent été confrontée à des expériences heureuses de bénévoles qui s'étaient occupés de migrants. Voilà, je suis vraiment vraiment désolée de dire ça. Il y a plein de bonnes volontés, ça peut vraiment bien les aider. Alors, je vois le cadre de la CIMAD, il y a vraiment un grand intérêt au niveau de l'administratif ou choses comme ça. Mais au niveau du français, alors en dehors des cours, en dehors des ateliers, hein, vraiment quand on passe au niveau du cours de français, quand c'est un bénévole qui le fait, c'est souvent un retraité de l'éducation nationale qui va apprendre à un allophone comment on fait du français en étant francophone. C'est comme si vous vouliez apprendre, j'en sais rien, le chinois, et on vous met un prof de chinois qui a eu de primaire ou de collège, qui a eu l'habitude que d'enseigner à des chinois. Il y a plein de choses, il ne saura pas vous dire. Et je le vois même au niveau de mes apprenants. J'avais des allemands et je leur disais, ah oui, alors l'allemand, comment vous faites au niveau des déclinaisons? Parce que moi j'ai fait du russe aussi, donc alors c'est laquelle, je vais mettre quel cas derrière quel verbe? Et en fait, ils n'étaient pas formateurs, ils étaient, beaucoup, ils étaient ingénieurs, cette personne-là. Elle m'a dit, j'en sais rien, moi, comment on fait au niveau des temps. Enfin, j'en sais rien comment on fait au niveau des cas, je ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire que je pense que ça peut avoir du bon, mais si ça peut soit se professionnaliser, ou peut y avoir une formation, ou être assez prudent, en fait, par rapport aux formules, parce que avec trop de bénévoles, s'il n'y a que du bénévolat, déjà vous tuez un métier, et puis après, et une formation universitaire aussi. Et puis au niveau des personnes, ça peut ne pas fonctionner aussi.
Juste pour compléter un petit peu du point de vue du bibliothécaire, comme ça je me prendrai quelques coups aussi. Mais non, justement pas pour. Parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est pas bien que les bibliothécaires, au contraire, c'est
ah non,
je suis très heureux de voir qu'effectivement. On soit si nombreux à s'emparer de ce sujet, il est vraiment crucial pour le pays. Par contre, effectivement, le problème, la BUI travaille vers la Bibliothèque d'études d'information, donc à Cergy-Pontoise, une fois les extraterrestres passés, on travaille sur l'insertion professionnelle. Donc on se heurte à parfois des interrogations, mais est-ce que c'est nos missions? Oui, c'est nos missions, d'accord, c'est bien, ta ta ta. Et les partenaires, donc Maison de l'Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, on a un discours assez rodé, c'est pas un discours de vente, mais enfin c'est de dire voilà, on va pas substituer à vous, absorber vos missions, on est en complément, on est des professionnels de la documentation et on vient effectivement pour documenter le parcours du demandeur d'emploi. J'ai essayé ce discours-là avec une responsable de centre social, mais qui me dit mais vous substituez à quoi? Il n'y a pas de cours. Et le problème, c'est que depuis les années 70, j'ai vu un bouquin de globalisation de fin des années 70, le niveau de cours de français qui est donné, et qui est donné à un niveau professionnel, est, alors là, je me tournerai vers le spécialiste, parce que je vois ça de loin, mais chacun de nous a le souvenir de gamins qui ont débarqué dans nos classes dans les années 80, par exemple. Et le prof disait, vous voyez, il y a un nouveau, vous allez l'aider à apprendre le français. on a un déficit de professionnalisme. C'est pas les bénévoles qu'il faut mettre en cause, c'est pas les efforts bénévoles ou les efforts profanes des bibliothécaires, c'est l'absence ou la rareté délirante. Parce que quand on parle d'intimidation, d'intégration, on oublie juste que la première pierre à poser, c'est effectivement l'acquisition de la langue.
Oui, c'est ça aussi. Là.
Donc là-dessus, effectivement, et pour moi, l'atelier, effectivement, excusez-moi, je termine juste là-dessus. Pardon, après. Dans l'atelier, dans la communication qu'on fait autour de l'atelier, pour moi, c'est effectivement important de dire oui, on le fait avec un professionnel, non pas pour dire on fait mieux que les autres, etc., mais simplement pour qu'il y ait dans la conscience des gens qui vont lire le journal Le Parisien où on a un article, machin, qu'effectivement, il y a des gens dont le métier, quand vous prenez l'exemple de apprendre le chinois avec un chinois, effectivement, il a beau parler chinois, vous ne parlerez pas mieux le chinois. Il y a une technicité, il y a un savoir-faire, il y a une conscience des relativités linguistiques et culturelles ou socio-culturelles ou scolaires, parce que c'est quand même un des marqueurs importants.
Après, je suis à 200% d'accord avec Jessica. C'est sûr que c'est un métier, c'est tout. C'est un métier, ça s'apprend. Alors moi, de mon côté, non seulement je l'ai été, mais maintenant je les forme. On leur donne un bac plus 5, donc c'est un métier, ça s'apprend. Par contre, effectivement, ce que vous disiez, c'est que vous, comme professionnel, les formateurs peuvent ou former les bibliothécaires ou apporter un certain nombre, parce que les bibliothécaires sont aussi des professionnels de ce point de vue-là. Donc, de professionnel à professionnel, c'est-à-dire qu'on peut faire ce passage, les formateurs peuvent avoir ce rôle-là aussi.
Mais les professionnels bibliothécaires n'ont pas forcément de formation.
Non, je parle
et pourtant,
pas de...
ça fonctionne parfois, mais il peut y avoir une polémique, entre des plus professionnels qui animent, par exemple, ces ateliers, ça dépend ce qu'on appelle atelier, ou ces groupes de conversation. Mais je crois qu'il faut laisser
la
parole à la salle, et peut-être certains d'entre vous vont s'écharper sur... Non, les bibliothécaires ne peuvent
pas
faire ça.
Oui, les bibliothécaires peuvent faire ça.
Merci, ça fonctionne. Oui, par rapport au débat qui semblait s'immiscer sur la fin, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu sur deux choses, donc je ne sais pas si ça va permettre de trouver un point d'accord. C'est qu'il y a deux choses à ne pas confondre, qui est le cours de FLE et l'atelier de conversation. Et c'est évident que le cours de FLE nécessite un professionnel, ça demande une pédagogie, ça demande une méthodologie, et quiconque qui s'y est essayé a vite compris que c'est extrêmement compliqué d'apprendre le français à des allophones, parce que c'est un métier. Donc ça, pour moi, sur un cours de FLE, il n'y a pas de doute, c'est probablement la raison pour laquelle très peu de bibliothèques s'y risquent, et que ce que nous proposons, ce sont des ateliers de conversation qui sont complètement différents, et effectivement, ils sont parfois frustrants dans l'offre pour les participants qui cherchent un cours parce que c'est soit cher, soit difficile à trouver et qui sont contents d'en trouver à la bibliothèque. Et donc voilà. Et là, moi, je suis plutôt persuadé que l'atelier de conversation nécessite une formation bien plus légère, puisqu'il s'agit d'animer une prise de parole de la part des participants et non pas de leur transmettre quelque chose où là, pour le coup, je suis bien d'accord avec vous, un professionnel est nécessaire.
Si je veux juste poser une question, c'est en fait, d'accord, atelier de conversation, très bien. Mais donc, il faut que les personnes aient déjà un certain niveau de français. Donc, vous touchez les personnes à partir du niveau B1, B2. Là, nous, on a aussi des personnes. Ça permet le fait que j'ai cette expérience en plus d'avoir des primo-arrivants, c'est-à-dire des personnes qui parlent quasiment pas, par exemple. Donc, si vous n'êtes pas habitué, alors je ne dis pas que j'ai une super formation, ce n'est pas du tout ça. Juste, j'arrive à doser mon vocabulaire pour savoir à peu près, parce que c'est dans le cadre de mes études où on m'a appris ça, comment les faire progresser, quels mots il faut choisir pour qu'ils puissent se comprendre et à modérer aussi. Parce qu'effectivement, l'atelier, il est très, très primo-arrivant qui ne parle pas et jusqu'au niveau B2 qui parle tout seul. Quoi.
Peut-être quelqu'un a envie de réagir là-dessus, oui. des ateliers. Mais alors, bien entendu, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est clair qu'il n'y avait pas de confusion. Il y a des aspects très différents qui sont les ateliers, les groupes de conversation, qui sont les formations qui se font souvent en partenariat avec des formateurs qui viennent soit d'associations, soit de cours qui sont diffusés par des institutions. Et puis, il peut y avoir encore autre chose, c'est des questions de bénévolat. C'était trois niveaux bien différents. Mais bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci pour ce magnifique film qu'on a vu. Effectivement, je pense aux gens qui font les ateliers FLE dans leur bibliothèque médiathèque, ils pouvaient se reconnaître parce que nous, on l'a fait. On remercie d'ailleurs à la bibliothèque de Montreuil qui nous a bien appris comment faire les ateliers de conversation. C'est grâce à eux que nous aussi, on a ouvert dans notre petite commune. Bravo à tout le monde pour ce que vous faites, c'est très très beau. Mais on ne s'est pas posé la question, moi personnellement, où on voit qu'on a des problématiques, c'est des problématiques aussi des moyens. On ne parle pas des moyens parce que tout ça c'est beau, la Rosetta Stone qui coûte 100 000 euros, 10 licences à mettre. Nous on en a une, du coup on a du mal quand ils viennent à 20 à proposer cette ressource. Du coup on a fait, c'est très bien le portail FLE, nous on a le portail FLE. Du coup, on l'a fait nous-mêmes, hein, les bibliothécaires, parce que voilà, pareil, on n'a pas les moyens d'acheter déjà tous les logiciels et les programmes déjà faits. Et puis, par rapport aux formateurs, je suis entièrement d'accord. C'est où on se confronte. Vous savez, je suis sûre que là, je parle, ça fait 10 secondes, j'en ai fait 150 000 fautes parce que j'ai appris le français ici, ça fait 10 ans. Et puis, je me confronte à cette problématique qu'on n'a pas les formateurs, on n'a personne qui est derrière nous. Qui peut nous aider, effectivement, quand ils me demandent pourquoi le café, c'est eux à la fin, mais c'est masculin. Ah ben, tout ce que j'ai à dire, j'ai dit c'est une exception, c'est ce que j'ai appris. Mais voilà, je ne peux pas approfondir, etc. Je pense que c'est très important à se poser la question. On vit dans une société, la France est un pays riche, mais les moyens pour la culture, tout d'abord, tout en haut, et puis dans la culture, on est là. Et les immigrés, les gens qui viennent des autres pays, ils sont aussi là. On n'a pas les moyens à les suivre comme il faut. Du coup, je ne sais pas si vous avez des solutions. Moi, je n'en ai pas. Mais comment, effectivement, apporter à tout ce monde et des logiciels qui sont payants et tout le reste qui nécessite voilà, un petit peu plus de soutien de l'État.
Juste parce que vous posiez la question de la solution, pour moi, elle est très claire, elle est très simple. Je suis désolé. C'est effectivement la naissance d'un service public de l'acquisition du français. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il existe, mais il est largement inférieur aux besoins réels. Et effectivement, ce serait dommage que la discussion se crispe sur atelier, pas atelier, formation, pas formation professionnelle, pas professionnelle. Au contraire, je pense que ce que font les bibliothécaires est très positif. Le problème, ce n'est pas ce que font les bibliothécaires. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a un besoin qui est crucial pour la vie des gens, parce que toute personne qui va dans un pays étranger peut imaginer l'espace d'un instant ce que c'est que la vie d'un étranger dans un pays comme le nôtre. C'est une expérience absolument épuisante, déstabilisante, déstructurante, et j'en passe. Donc, il y a effectivement besoin qu'on renforce au moins, voir qu'on fasse émerger un service public de l'acquisition du français qu'on accompagnera de la même manière qu'on accompagne l'insertion professionnelle sans aide des services d'emploi. Et dans quel cas, effectivement, moi, je pense qu'effectivement, il faut de toute façon une sensibilité à la langue. De toute façon, on a bien un problème dans ce pays, hein, de transparence de la langue. On pense pas la langue, ou pas suffisamment. Mais en tout cas, c'est pas effectivement les initiatives qui sont plutôt à saluer ici, qui sont responsables de cette situation. Et par contre, ces initiatives peuvent permettre de souligner qu'il y a un besoin, un vrai besoin, et que si la puissance publique s'engageait dans la résorption de ce besoin, il y aurait sans doute un certain nombre de choses qui seraient effectivement facilitées.
Sur la question propre des moyens, puisque c'était vraiment ce que posait madame, ce que demandait madame. Quelque chose de plus concret.
Mais il n'y a pas au niveau de la BEI, il n'y a pas de tissu associatif, justement, vers les associations d'insertion avec les CIP qui peuvent proposer un accompagnement par rapport à ça, au niveau de la CAF, tout ça.
Ce sont aussi les limites de l'accompagnement. On ne peut pas effectivement les accompagner. Enfin, accompagner tous ces publics dans toutes leurs démarches, en fait. Ça, c'est aussi les limites de l'institution qui fait que... et des missions, oui, tout à fait. On a une question en haut.
Oui, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est vrai que on manque de plein de choses en France, là. Ce que vous avez dit est tout à fait juste, il faudrait quelque chose de beaucoup plus performant pour accueillir les migrants. Mais je trouve quand même qu'en bibliothèque, c'est quand même le lieu où on peut apporter le lien social. Vraiment, au-delà même de l'enseignement, c'est pas quelque chose que... L'enseignement, c'est pas à nous de le faire, mais le lien social, il est vraiment là. Enfin, je veux dire, on est tous capables de le faire. Et c'est ça, en fait, qu'on apporte dans les ateliers de conversation, plus que l'enseignement, hein, je pense. Enfin, voilà, c'était juste une remarque sur les ateliers.
Moi, je voudrais juste rajouter, on l'a peut-être pas suffisamment évoqué, que ce qui est tout à fait fondamental, c'est les formes de collaboration et de partenariat avec les structures de formation de la langue. C'est-à-dire comment est-ce que les bibliothécaires et les formateurs peuvent travailler ensemble pour rejoindre la question que vous posiez finalement. La bibliothèque est aussi un lieu de la langue.
On vous remercie pour vos interventions. Et puis pour la salle, une dernière question, alors une toute dernière.
Oui, c'est vrai que je me demandais aussi, parce que je me présente, donc moi je suis bibliothécaire à Saint-Éloi, je travaille pour le pôle sourd, et c'est vrai qu'on réfléchit, on se demande comment rendre accessible avec le FLE, parce que c'est vrai que donc moi c'est pas mon rôle, mais il y a aussi le problème voilà, de l'accessibilité avec plein de choses qui ne sont pas accessibles. On se demandait aussi pour l'avenir comment accueillir voilà, des migrants sourds, parce que par exemple à Paris il n'y a que deux pôles qui accueillent des migrants sourds. Et c'est tout. Donc voilà, on se demandait à l'avenir.
On y arrivera.
Une question compliquée. Et visiblement, là, aujourd'hui, un peu sans réponse, malheureusement.
Je crois qu'il y a des expériences quand même, hein, dans les
bibliothèques. Oui, il y a sans doute des expériences menées. Il faudrait effectivement qu'on arrive à se renseigner sur ce qui peut être conduit et sur quelles sont effectivement les associations qui éventuellement pourraient vous aider. Mais vous êtes de Saint-Éloi, de toute façon, je crois, et il est prévu qu'on se rencontre prochainement avec votre nouveau directeur pour aborder en tout cas des questions communes. Donc on essaiera de réfléchir un petit peu avant à ça et puis de voir ce qui a pu être déjà expérimenté, mais... J'avoue qu'aujourd'hui, je ne crois pas, sauf si dans la salle, il y a une réponse à apporter, mais en tout cas, merci pour cette question, parce que de fait, elle pose, une question qui est un peu fondamentale. Merci. Je vous remercie donc tous les cinq pour cette table ronde. Nous allons maintenant passer à la projection d'un film de la BPI.
Peut-être
dont Éléonore va nous dire deux, trois mots.
Peut-être la personne de la BPI peut-elle dire quelques mots sur le film ?
Comme ça. Raphaël. Bien sûr.
Okay. C'est bon ? Je présente ? Ok. Donc, je vais essayer de vous présenter en deux minutes ce que vous allez voir. Je vais peut-être me lever, c'est plus sympa pour vous. Donc, voilà. On va vous présenter un programme qui s'appelle « D'une rive à l'autre ». Qui est en fait trois choses à la fois. C'est tout d'abord un partenariat entre la Bibliothèque publique d'information et une association qui s'appelle les Amis de Banque. Donc comme vous l'avez entendu pendant la table ronde, à la BPI, comme dans plusieurs bibliothèques, il y a des ateliers de conversation français langue étrangère. Il y en a dans beaucoup de bibliothèques et il y en a même dans, au final, d'autres pays francophones, comme au Canada, à Montréal... Donc à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui se trouve à Montréal, il y a aussi des ateliers de conversation française pour les migrants qui vont s'installer au Québec. Donc l'idée, c'était de mettre en relation, c'était d'étendre l'expérience des ateliers de conversation où en fait on a des participants qui viennent du monde entier se retrouver, dans notre cas à Paris, où en fait ils ont des parcours migratoires différents. Mais en tout cas, ils partagent une chose, c'est qu'ils ont tous migré en France, a fortiori à Paris. Et l'idée, c'était de mettre en relation avec des migrants, mais dans un autre pays, c'est-à-dire mettre en relation les migrants de Paris, les migrants de Montréal. Donc concrètement, à quoi ça ressemble ?
Donc c'est d'abord ce partenariat, c'est une activité de médiation qui dure à peu près 3-4 mois. On va sélectionner un groupe de participants à la BPI et un autre à Montréal, et où vont échanger entre eux par le biais de vidéos. Soit on les filme, on s'échange des vidéos, soit on fait des visioconférences où ils parlent en direct, avec le petit souci du décalage horaire important. Donc voilà, donc c'est une activité de médiation envers les participants. Et la troisième étape, c'est qu'à la fin de ces quelques mois, bah en fait, on a réuni plusieurs heures de rush, d'échange entre ces participants sur des sujets très variés. Et du coup, on monte ces vidéos par thématique et on a fait une web-série documentaire. Donc en fait, c'est comme une série. Il y a 15 épisodes pour la saison 1 qui a eu lieu l'an dernier, en 2015. Voilà. Et donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est les deux premiers épisodes. Le premier qui, en fait, oui, on va faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, en fait, le premier, c'est les animateurs de Paris et de Montréal qui présentent le projet. Et le deuxième, vous allez voir le premier épisode qui a pour thème... mon premier jour à Paris, voilà, c'est ça. Le premier jour dans ma ville d'accueil. Et juste pour info, donc ça, c'était les... Forcément, c'est assez long à faire. Ce que vous allez voir, c'était en 2015. En 2016, on a fait une saison 2. On va la monter cet été, donc les épisodes de la saison 2 avec de nouveaux participants seront disponibles, on l'espère, pour l'automne. Merci beaucoup. C'est absolument disponible sur le site de la BPI. Si vous allez sur BPI pour les pros, il y a une fiche qui... Soit vous cherchez sur le site de la BPI, soit vous allez dans BPI pour les pros, il y a une fiche d'une rive à l'autre qui raconte, qui donne le lien. Donc les 15 épisodes sont disponibles en ligne.